Radio Okapi. Oh, Okapi.
Le calme est revenu dans la province du Tanganyika après une vive tension qui y a prévalu au lendemain de la publication des résultats provisoires par la CENI de la présidentielle de décembre dernier, constat du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, en séjour à Kalemie, a présidé hier le Conseil provincial de sécurité. À Kananga, l'avenue Kasavubu en plein centre-ville est coupée par une tête d'érosion. C'est après la pluie diluvienne d'hier après-midi sur la ville. Cette érosion a détruit une église et menace le bureau de la police spéciale de roulage et d'autres bâtisses environnantes. Nous faisons le point dans ce journal. Et puis, l'armée est accusée d'exécution sommaire des civils lors des affrontements lundi dernier avec un présumé groupe armé à Mangina dans le Nord Kivu. La radio communautaire locale est jusqu'à ce jour encerclée par les FARDC à Printemps. Pour en parler, nous recevons le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole militaire du secteur opérationnel Grand Nord. Madame, Messieurs, bonjour. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur se félicite du calme qui règne actuellement dans la province du Tanganyika. Peter Kazadi l'a dit hier mercredi devant la presse à Kalemie au sortir de la réunion du Conseil provincial de sécurité qu'il a présidé. En outre, il lance un appel à la population à privilégier l'unité, la cohésion et la coexistence pacifique. On écoute le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
Nous avons échangé avec le conseil provincial de sécurité. On m'a signalé et moi-même j'ai constaté que la ville est calme, à part quelques petites menaces, lèvres de certains politiciens à mal de positionnement, mais sinon la situation générale est bonne. J'ai tenu à féliciter le conseil provincial de sécurité pour l'ordre maintenu, pour la sécurité assurée à nos populations. La province de Tanganyika est voisine à 3 pays et que cette longue frontière constitue une menace qu'il faut tenir compte et maintenir le niveau de la sécurité au maximum pour faire face à tout ennemi extérieur. Vous savez, le pays est en guerre. Nous sommes convoités par tous les pays. Donc nous avons les devoirs légitimes, les devoirs sacrés de contribuer à la sécurisation de notre territoire. Il faut tourner le dos au discours séparatiste, au discours tribal, au discours de stigmatisation des uns et des autres, promouvoir un discours de l'unité, de cohésion, de la coexistence pacifique.
Par ailleurs, après les violences observées au mois de novembre dernier à Malembankulu dans la province du Olomami, les autorités locales s'activent à mobiliser les différentes couches de la population à la cohabitation pacifique. Pour la société civile locale, la haine tribale n'existe pas dans cette entité. Ce qui est arrivé est à considérer comme un incident de parcours qui, du reste, est regrettable. Jean Gandou.
Prenant la mesure de la chose, l'administrateur du territoire de Malembankulu a entrepris une série de rencontres, objectifs visés, sensibiliser les uns et les autres que le vivre ensemble doit caractériser tout le monde et la haine tribale doit être bannie. Joël Kayembe.
Le grand sujet, c'est l'enseignement basé sur les rejets de la haine tribale. J'ai même aussi demandé aux responsables des écoles dans les enseignements de faire comprendre aux jeunes que le Mulumba du Katanga et celui du Kasai sont les enfants d'une même personne, les souhaits de voir demain les générations futures vivre en harmonie, en amour patriotique, sans séparatisme.
Les membres de la société civile présents à cette rencontre précisent que la haine tribale n'a jamais été de mise dans leur entité. Toutefois, ils s'inscrivent également dans la logique de la recherche de la paix. Bovik Mujingankundwe, coordonnateur de la société civile de Malembankulu.
Depuis longtemps, nous travaillons avec les Kasaïens, nous habitons avec les Kasaïens. La haine tribale ici à Malemba, ça n'existe pas. Et à partir du samedi, je descends dans les groupements de Kabala et pour une sensibilisation. Après, je dois quitter vers Boutombe, continuer dans la chefferie de Moulongokul, que les problèmes se répètent.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Rendons-nous au Nord Kivu. Les motos sont interdites de circuler au-delà de 18h locales dans la ville de Goma. À dater d'hier mercredi, c'est en exécution de la décision annoncée par le maire de la ville hier même. Une disposition qui fait suite aux instructions du comité provincial de sécurité réuni mardi 9 janvier à Mugunga visant à lutter contre la criminalité en hausse dans la ville. Cependant, au sein de la population, cette décision est diversement accueillie par différents acteurs. Bernardin Nyangi nous en parle.
Le maire a annoncé cette mesure en milieu de la journée hier mercredi. Et selon le communiqué du maire, la mesure prenait effet le même jour. Du coup, les motards estiment avoir reçu cette décision tel un effet de surprise, suivant leurs propos.
Ce qui nous étonne d'abord, c'est de voir comment cette décision nous surprend. Nous sommes bien sûr sous le pouvoir de l'État, mais cela n'empêche que nous soyons avertis des décisions importantes.
Selon le porte-parole du gouverneur militaire, cette décision du comité provincial de sécurité vise à endiguer la criminalité dans la ville. Pour le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, en effet, la mesure ne se limite pas seulement aux seuls motards. Nombreux sont ceux qui estiment que 18 heures est une heure de pointe pendant laquelle le service des motards est largement sollicité. Un avis de Marion Ngavo de la société civile urbaine de Goma.
Deux populations rentrent entre 20h et 21h. Les motards nous font arriver à la maison. Nous pensons que c'est un moyen de donner aux policiers de tracasser les motards.
Rappelons que cette mesure a été décidée par le comité provincial de sécurité élargi aux quatre de base des 18 quartiers de Goma, mardi 9 janvier. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Restons en Nord Kivu, cette fois dans le territoire de Beni, pour signaler la reprise timide des activités depuis hier mercredi à Mangina, commune rurale située à plus ou moins 30 km de Beni. C'est après des affrontements lundi entre les FARDC et un groupe présumé Mai Mai, affrontements qui ont occasionné le déplacement de la population et la mort d'au moins 7 civils. Selon le président de la société civile de Mangina, c'est depuis hier qu'une accalmie est observée sur place. Muongo Zivuniati le dit à Guylaine Kassassia.
Après l'arrivée de l'administrateur militaire du secteur opérationnel Sokola 1, l'auditorat militaire, mais également la police technique scientifique venue pour s'imprégner de la situation qui prévaut dans la commune de Mangina. Alors pour aujourd'hui, une accalmie s'observe, la circulation a commencé, les activités commerciales ont partiellement ouvert leurs portes, mais aussi les marchés, surtout la partie des arrêts alimentaires ont été observables ces mercredis. Nous sommes en train de penser que si ça continue et si tout va s'améliorer et toutes les activités vont reprendre normalement, vous comprenez que même jusqu'à aujourd'hui, la rentrée scolaire n'a pas encore eu lieu. Voilà que l'auditorat a arrêté les militaires, les auteurs des troubles. Et nous sommes en train de penser qu'on va accélérer cette opération de la justice pour que les familles qui ont été touchées puissent être remises dans leur droit.
Et justement au sujet de l'exécution présumée des civils par l'armée à Mangina dans le territoire de Beni, le député national Ezekiel Kambale demande l'ouverture d'une enquête mixte auditorat général des FARDC et société civile. Dans une lettre adressée à l'auditeur général des FARDC, cet élu du peuple parle d'une violation grave des droits de l'homme par des militaires à Mangina. Plus de détails avec Martial Papi Mukeba.
Dans sa lettre, le député Ezekiel Kambale dit que le 8 janvier dernier, des militaires des FARDC ont planifié un assaut contre des présumés combattants d'Iwazalendo, dont les camps se trouvent près de la rivière Touha, à environ 5 km au nord-est de Mangina. Sur le chemin, ils seraient tombés dans une embuscade qui a coûté la vie à 3 militaires des FARDC. D'après cet élu, de retour à Mangina et en colère, ces militaires incontrôlés ont commencé à tirer à bout portant sur la population civile. Bilan, 7 civils tués et une dizaine de boutiques et maisons d'habitation systématiquement pillées. Des actes que le député Ezekiel Kambale qualifie de violations graves des droits de l'homme. D'où son appel à l'auditeur général des FARDC à mettre en place une commission d'enquête mixte de la justice militaire et de la société civile pour faire la lumière sur ces faits graves. Signalons que depuis 2 jours, 6 militaires sont aux arrêts. Mais selon des sources sécuritaire, c'est plutôt pour dissipation des munitions de guerre à Mangina. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, 5 morts et 1 blessé. Bilan d'un accrochage mardi entre la coalition FARDC et armée ougandaise contre les rebelles ADF à Makwangi dans le territoire de Mambasa. Des sources sur place rapportent que les forces loyalistes étaient en patrouille des combats en profondeur de la forêt quand elles ont été alertées par la population sur la présence de l'ennemi dans les champs de certains habitants. Selon l'administrateur de Mambasa, ces rebelles cherchaient un couloir pour accéder à la route nationale numéro 4 pour se ravitailler en divers produits. Le récit de Jean-Claude Lokidile.
Le mardi, un groupe de paysans a intercepté ces rebelles dans les champs. Aussitôt, ils ont alerté les deux forces, explique Marie-Noël Anotane, la coordonnatrice territoriale de la société civile Force Vive. Dans ces affrontements, trois rebelles ont été tués et un soldat des FARDC a succombé à ses blessures après avoir été acheminé dans une structure médicale, indique notre source. L'administrateur du territoire de Mambasa ajoute qu'un autre élément des forces loyalistes est blessé, mais sa vie est hors danger. D'après la société civile, c'est pratiquement depuis quelques semaines que ces rebelles ADF circulent dans la zone. Ils fuient les opérations de traque menées contre eux par les FARDC et l'armée ougandaise. Les acteurs de la société civile demandent aux forces de défense et de sécurité de contenir ces hommes qui, en voulant échapper à la pression des faits, s'attaquent aux populations civiles. Ils déplorent le fait que plusieurs alertes faites depuis la semaine dernière pour informer les autorités locales ne sont parfois pas considérées. Une situation qui vient, selon eux, perturber l'accalmie qui s'observait dans cette région depuis les trois derniers mois. Bounia Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Vous avez corrigé avec moi, c'est plutôt Isaac Remoyope. Rendons-nous au Sud Kivu. Une vingtaine d'agents de l'unité de la police lacustre suivent une formation sur la lutte contre les incendies à bord des bateaux. Cette formation de 5 jours a débuté hier à l'école de police Jules Moke, dans la commune de Bagira. La police des Nations Unies, UNPOL, contribue sur le plan logistique et technique pour le bon déroulement de cette activité. On écoute les impressions du directeur de l'école de police Jules Moke, le commissaire supérieur principal Jean Temetu Elali. Il met un accent sur l'apport de UNPOL au profit de son école.
Cette formation qui vient de débuter aujourd'hui, c'est vraiment très très important, surtout pour les agents qui œuvrent au sein de l'unité de la police lacustre. Ceci concerne d'abord la protection du bateau, la protection des passagers, et si ces éléments sont outillés par ses connaissances, ils auront atteint un niveau vraiment professionnel dans le cadre de leur mission. Dans le cadre budgétaire de l'exercice année 2023-2024, il y a déjà un plan qui est prévu, 4 formations, dont la lutte contre l'incendie, qu'on a commencé aujourd'hui du 10 au 15, et d'autres formations suivantes telles que en maintien des rétablissements d'ordre public, niveau 1 et 2, suivra la formation leadership management top niveau 1 et 2, et puis formation niveau pédagogique top 2, qui sera organisée ici à l'école de police Jules Moke.
Je vous le disais en titre, à Kananga, l'avenue Kasavubu en plein centre-ville est divisée en deux par une tête d'érosion. C'est à la suite d'une pluie qui s'est abattue sur la ville hier après-midi. Cette érosion, qui nécessite une intervention urgente, a déjà détruit le temple de l'église Bethel et menace le bureau de la police spéciale de roulage ainsi que l'Institut supérieur technique de Kananga et d'autres bâtisses tout autour. François Kadima nous fait le point.
Tout est parti de la pluie du 26 décembre dernier qui avait occasionné plusieurs morts et des dégâts matériels importants sur la ville. Cette pluie qui avait commencé dans la nuit s'est arrêtée aux petites heures d'après-midi. Du coup, cette érosion qui est parmi tant d'autres qui menacent la ville de Kananga s'est agrandie et a d'abord détruit les temples de l'église cité Bethel. Il n'y a pas eu intervention en dehors de quelques sacs placés pour stopper la pression d'eau. Malheureusement, ce dispositif n'a pas arrêté son avancée. Avec la pluie qui s'est abattue l'après-midi de mercredi, l'érosion a coupé en deux l'avenue Kasavubu, l'une des voies secondaires très fréquentées et qui permet d'atteindre également le marché central de Kananga. Déjà, le siège de la police de roulage est menacé et l'Institut supérieur technique de Kananga, ISTK, en diagonale de ce bureau de la police. Cette situation appelle à une intervention urgente des autorités pour stopper l'avancée dangereuse de cette érosion. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Actualité internationale. Nous sommes au Soudan. Le conflit entre les généraux Al-Burhan et Daglo, qui dure depuis maintenant 9 mois, favorise la propagation des maladies dont le choléra. Selon le tableau peint par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, des milliers d'enfants souffrent de malnutrition et les violences sexuelles augmentent. Alors que la situation ne cesse de se dégrader, l'insécurité et les pillages entravent le travail de l'OMS et de ses partenaires.
L'invité.
L'armée est accusée d'exécution sommaire d'au moins 6 civils lors des affrontements lundi dernier avec un présumé groupe armé à Mangina dans le territoire de Beni. Nous sommes au nord Kivu. Des actes de pillage des commerces et des maisons d'habitation ont été rapportés sur place et la radio communautaire locale est jusqu'à ce jour encerclée par les FARDC. Que répond l'armée à ces accusations et qu'est-ce qui justifie cette situation? Pour en parler, nous recevons le porte-parole militaire du secteur opérationnel Grand Nord, le capitaine Anthony Mwalushai, s'entretient avec Martial Papi Mukeba.
Capitaine Anthony Mwalushai, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Comment expliquez-vous que des militaires des FARDC aient tué des civils et pillé des maisons et des commerces à Mangina?
Vous faites allusion à ce qui s'est passé lundi, c'était le 8 janvier. Il n'y a jamais eu des militaires qui ont tiré sur la population à Mangina. Mais comme nous sommes respectueux de la loi, nous avons interpellé 6 militaires au total, pointés du doigt par les témoins qui étaient là, parce que après affrontement avec les miliciens du côté rivière Toua, où nous avons perdu 3 militaires et des armes emportées par ces éléments, les militaires sont rentrés sur la cité. Alors, il y a eu des crépitements des balles, les militaires ont tiré en l'air, ils étaient énervés et selon les témoins, il y a eu des balles perdues qui ont tué la population à Mangina. Informé, le commandant secteur opérationnel Sokola Incranor était mardi à Mangina, accompagné de l'auditeur des garnisons et son état-major pour évaluer la situation. Et nous avons d'abord mis la main sur tout celui qui a été cité de notre côté pour mener des investigations. Donc, nous avons arrêté ces 6 militaires et il y aura des audiences. S'il s'avère vrai que les militaires sont responsables de ces 4 civils qui ont été trouvés morts à Mangina dans la cité, nous n'avons rien à cacher, ils vont répondre de leurs actes.
Plusieurs sources parlent d'actes des représailles de l'armée contre la population après avoir perdu certains de ses hommes dans des affrontements avec un groupe présumé des Maïmaï. Quelle est votre réaction?
Dire présumé, c'est... Je ne sais pas, c'est votre droit parce qu'on n'a pas encore jugé. Alors, il faut dire que les groupes Maïmaï qui nous a attaqués, il n'est pas les Ouazalènes comme on veut faire croire à l'opinion. L'armée est soumise à l'autorité civile. Donc, la hiérarchie militaire nous a donné l'ordre de travailler en étroite collaboration avec les compatriotes qui ont pris la décision de servir les pays en dénonçant les ADF et autres groupes qui sont hostiles aux forces de l'ordre. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais malheureusement, il y a un discours de haine contre l'armée qui s'est développé dans cette zone et qui a tout déclenché. Donc, il n'y a aucun problème que la justice fasse son travail.
Pourquoi jusqu'à ce jour, des militaires des FARDC encerclaient toujours la radio communautaire de Mangina qui n'émet plus depuis 5 jours?
Si vous voyez la position stratégique de cette radio, sur le plan tactique, il y a quoi que le militaire soit positionné sur cette radio parce que c'est là où le milicien venait pour utiliser ça comme lien de vigilance, donc de rassemblement. Il s'est rassemblé là-bas et puis il s'est donné des orientations avant d'attaquer nos forces. Depuis que nous sommes là, Mangina maintenant, il y a du calme.
Plusieurs sources disent que l'armée a même emporté certains matériels de la radio communautaire de Mangina avant de l'encercler jusqu'aujourd'hui.
Je n'ai pas dit le contraire. Je vous dis que nous avons non seulement récupéré, interpellé les journalistes et
pourquoi
les techniciens, parce que les journalistes qui présentaient l'émission Révélation du peuple qui passe chaque samedi à partir des 20h30 à 21h et qui détenait des renseignements sur et les intox que nous avons retrouvés dans les ordinateurs récupérés et avec quoi que le service des renseignements récupère. Nous avons 24 heures après relâché le journaliste et pour les machines, nous avons encore parce que nous avons un travail avec ces machines et c'est la justice qui va encore continuer ce travail après l'exploitation par les services de renseignement.
Où sont les émetteurs de la radio communautaire des Mangina?
Les émetteurs de la radio n'ont pas été emportés par militaires. Moi, je vous parle de 2 ordinateurs que nous avons récupérés.
Capitaine Anthony Mwalushai, pour aider l'opinion à mieux comprendre ce qui s'est passé à Mangina, comment expliquez-vous ces reggaets de violence dans cette région.
Le requin de violence dans la région de Beni dans son ensemble, c'est aussi la cacophonie entretenue par certains, je dis bien certains, hommes politiques qui s'ignorent qu'ils sont leaders de l'opinion. Dans plusieurs meetings ou bien rencontres, on a toujours tendance à faire croire que c'est l'armée qui est responsable du massacre. Beaucoup veulent voir l'armée quitter dans cette zone et laisser la place aux groupes armés comme on veut nous faire voir que c'est l'autodéfense.
Capitaine Anthony Malouchai, merci.
C'est moi qui remercie la radio Capi.
Le porte-parole militaire du secteur opérationnel Grand Nord répondait aux questions de Martial Papi Mukeba. Par ici prend fin ce journal coordonné par Blaise Shindani Kambala. Supervision de Martin Sebujangwe, Mimi Kindo à la mise en onde et Belinda Boussouma vous la présenter avec tout le plaisir. Nous vous disons merci d'avoir été des nôtres.